Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Tired of ads interrupting your gripping investigations ? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous écoutez, c'est creepy.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Aujourd'hui, nouveau featuring Stylax, je suis en compagnie d'Alice. Alice est une auditrice, désolée je suis obligée, ça rime, mais c'est la vérité. Alice m'a envoyé un message et m'a dit
« Hello, hello Vanille, comment ça va ?» Voilà.
Littéralement, c'est comme ça qu'elle m'envoie des vocaux. Et elle m'a dit « J'ai une histoire à te raconter ». Du coup, nous voilà ici aujourd'hui. Bonjour Alice.
Coucou Vanille.
Comment ça va ?
Écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être là.
Je suis très contente que tu sois là. Du coup, est-ce que tu veux te présenter peut-être un peu mieux que ce que j'ai fait à l'instant, Alice l'auditrice, c'était pas terrible.
Oui, Alice l'auditrice, c'est sympa. Ce sera mon petit surnom. Moi, je suis donc une auditrice de C'est Creepy depuis un peu, pas le tout début, mais j'ai découvert quand même très rapidement et je suis devenue assez addict, si bien qu'effectivement j'ai écouté tous les épisodes en, je crois, je t'avais dit 5 jours, un truc comme ça.
Wow.
Je crois que j'ai écouté, j'écoutais en allant au boulot, j'écoutais, voilà. Comme moi, dans la vie de tous les jours, je fais de la communication et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de savoir comment on raconte aussi des histoires et puis, voilà.
De comme, communiquer. Comme je...
Voilà, de communiquer. Et en fait, j'ai fait, pour parler un peu de... Pour expliquer un peu aussi ma passion pour les affaires criminelles, c'est j'ai fait en fait pas mal de droit et de sciences criminelles.
Trop bien.
À la faculté et du coup j'ai toujours été assez intéressée et intriguée par les affaires troubles, les affaires policières, les enquêtes criminelles, élucidées, non élucidées, voilà. Ça me passionne un petit peu et voilà. D'où ma présence aujourd'hui à tes côtés puisque un jour j'ai entendu dans un de tes épisodes que tu disais que tu avais envie de, pourquoi pas, le faire avec quelqu'un.
Tout à fait.
Enfin, voilà, de mixer. Ouais. Voilà. Donc, du coup, j'ai retenu ça. J'ai retenu cette leçon et je me suis dit, allez,
c'est
go.
Parti.
Je vais envoyer un petit message à Vanille. Hello, hello. Voilà.
Et ben, c'est avec grand plaisir que, on va écouter ton histoire aujourd'hui. J'ai très hâte parce que tu m'as dit que tu nous as trouvé un sacré numéro.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est un individu un peu spécial là, dont on va parler aujourd'hui.
Ok, et alors c'est parfait. J'ai hâte, on a tous hâte. Petite musique creepy, c'est parti. Let's go.
Donc aujourd'hui, on va parler de l'affaire Georges Rapin. Donc c'est une affaire qu'on appelle aussi l'affaire Monsieur Bill, de Monsieur Bill. Donc c'est une affaire marquante des années 1950. En France notamment, parce que c'est une affaire française pour une fois. Souvent on parle d'affaires américaines, parce qu'il y a quand même beaucoup de fous aux États-Unis, mais il faut savoir qu'il y en a aussi en France. Donc, dans les années 1950, cette affaire a été particulièrement marquante parce que la personnalité du protagoniste était super complexe et que c'est en gros un cas à part dans la mythomanie. Donc vraiment...
Okay.
Comme j'aime à le dire, il a été bercé un peu trop près du mur, cet homme-là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, en gros, je crois pas que tu décomposes trop l'histoire en plusieurs parties, mais moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu pour pouvoir un peu m'y retrouver dans l'histoire et ne rien oublier. Okay. Donc, je vais d'abord te dresser un petit peu, je t'explique un petit peu, je vais d'abord dresser le portrait de cet homme replacer les choses dans leur contexte. Après, je vais t'expliquer donc les faits, ce qui nous intéresse.
Ok.
Les crimes. Et ensuite, j'expliquerai pourquoi cette affaire est restée dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'elle est marquante et voilà, pourquoi elle, encore aujourd'hui, on en parle.
Ok.
Alors, donc on va parler d'abord de l'homme en tant que tel, hein, qui va nous intéresser dans cette affaire, donc c'est de sa situation personnelle. Donc comme je l'ai dit, il s'appelle George Rapin, George Rapin, pour les Anglais. Donc là, George Rapin, donc c'est un Français qui est né le 30 août 1936. Il est né dans une famille assez aisée de la bourgeoisie parisienne. C'est un petit privilégié, sympa. Et en fait, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il est élevé en fils gâté parce que, en fait, malheureusement, son frère aîné est décédé de façon prématurée. Et du coup, ses parents lui ont tout donné, quoi. C'est-à-dire, ils l'ont pourri gâté parce que c'était leur seul fils, du coup, et voilà. Et donc, ils lui ont offert un peu tout ce qu'il voulait. Il était vraiment pourri gâté. Donc, il grandit dans le Paris des années 50, ce Paris qui fait la part belle aux films de gangsters, aux romans des séries noires. À cette époque, il y a Hitchcock qui est vraiment sur le devant de la scène. Et du coup, Georges, il est très intéressé par ce milieu-là, il est très admiratif de ces héros de séries noires. Et très vite, adolescent, il est attiré par les armes. Et il veut devenir un grand bandit, voilà, il se rêve à l'image des héros de ces films-là. Et donc, en fait, il rêve d'une réputation de brigand dans le milieu du banditisme parisien. En fait, il s'imagine voyou, parmi les voyous.
Okay.
Et il y a un petit fun fact qui est assez drôle, c'est qu'en fait, donc Georges, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais instable et complètement turbulent. Et en fait, il parvient pas à rester ni à l'école, ni à conserver un emploi. Donc, voilà.
Ok, bah comme tous les autres, quoi.
Voilà. Pas de surprise. Et du coup, en fait, il connaît aussi, il faut le savoir, un problème de croissance. Donc ça, c'est un petit fait assez fou. C'est qu'en fait, à 14 ans, il mesure 1m40, 1m45. Donc il est vraiment tout petit, très chétif. Et du coup, comme je pense qu'il est un peu blessé dans son estime parce qu'il a envie d'être un grand bandit, le creepy fact de l'époque, c'est qu'il se fait faire une série d'élongations.
Oula.
C'est très en vogue à l'époque, c'est-à-dire qu'on va lui étirer les jambes. Enfin, il a mis des prothèses, en gros. Et grâce à ça, il va réussir par parvenir à la taille de 1m75 à l'âge de 23 ans. L'âge qu'il a lors de l'affaire qui nous occupe. Donc voilà, donc ça c'est un peu un creepy fact, mais que je voulais quand même noter parce que, bon bah moi je mesure 1m58, si j'avais voulu qu'on me fasse des élongations pour mesurer 1m75, je sais pas si je l'aurais fait, quoi. Je sais pas.
T'as quand même raté quelque chose.
Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être une solution, mais bon. Je décide de garder mon 1m58, c'est pas grave. Donc, dans ce contexte-là de besoin d'estime de lui-même, de besoin d'être un bandit, un voyou, il veut vraiment. Faut savoir que, pour contextualiser juste, dans la ville de Paris, donc il y a un quartier qui s'appelle Pigalle, pour les gens qui vivent pas à Paris, qui connaissent pas forcément. Et Pigalle, à cette époque-là, c'est la capitale des truands. C'est-à-dire que, notamment, il y a un boulevard qui est le boulevard de Clichy, qui est appelé le boulevard des Allongés ou l'allée des Veuves. Tu vas voir pourquoi je parle de ça après. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est le boulevard qui est le théâtre des règlements de compte entre bandes rivales et notamment beaucoup de bandes corses, voilà, qui se battent un peu contre tout le reste des populations parisiennes. Et donc, enfin, vraiment, c'est un vrai lieu un peu touchy où effectivement les bandes rivales s'affrontent et ont la gâchette facile, donc effectivement il y a beaucoup de meurtres à cet endroit-là et beaucoup de crimes. Et donc en gros, c'est un peu un endroit parisien qui fascine notre Georges qui a très envie d'être un voyou, comme on l'a dit. Donc pour que l'illusion soit parfaite, Georges va prendre des allures de voyou. Donc dès la fin de son adolescence, il grandit, il commence à se déambuler dans ce quartier-là, il s'exhibe avec un revolver à la ceinture,
oui.
Il roule en Gordini, qui est une voiture très prisée à l'époque et que ses parents lui offrent, puisque ses parents, on le rappelle, lui payent absolument tout. Il fume des cigarettes par paquet, il commence à se faire un nom en tant que proxénète aussi. Et en fait, en gros, on le voit, il a les cheveux gominés, il se comporte comme un caïd, il se comporte comme un bandit, quoi. Donc il a les cheveux gominés en arrière, il a une petite moustache fine, Il déambule sur les trottoirs, il se fait passer pour un bandit. Et le truc drôle aussi, c'est qu'il imite même, il va jusqu'à imiter l'accent corse. Donc je ne sais pas, ne me demande pas de le refaire, je pense qu'il fait un truc du style « C'est moi qui ai tué tout le monde, ok ? C'est moi le bandit. » Je sais pas, je pense qu'il se rêve un peu en patron de la mafia, ok ? Je pense qu'il fait une espèce de voix comme ça, bon, je suis pas corse, hein, mais...
Ouais, pardon les corses,
Ouais, pardon les corses, désolé, mais j'essaie... Comme il l'imite mal, je l'imite mal, j'imite, voilà. Donc de toute façon, c'est parfait. Et il joue, voilà, il passe ses nuits à jouer au poker, à dépenser l'argent qu'il n'a pas, mais qui est fourni par ses parents. Bon, bref, c'est une vie très très sympa, hein, voilà, pleine d'excès, et puis vraiment où bon, il fait sa vie sans compter, voilà. Il se construit donc sans difficulté avec toute cette situation là, et ses parents donc qui sont vraiment attentifs et maternels à l'excès. Lui paye vraiment tout ce qu'il désire et viennent même à lui payer. Et alors là, c'est vraiment, ça prouve vraiment, le personnage est vraiment complètement, complètement sous la botte de, enfin voilà, complètement des parents du fric de ses parents. Mmh. C'est que ses parents commencent à, comme il a pas d'emploi et qu'il va pas à l'école, il lui paye un bar. Il lui paye deux bars même. Et le premier étant le plus connu, puisqu'il va l'appeler le Bill's Bar. Et il lui paye même une librairie parisienne. Alors, je sais pas ce qu'il va faire dans cette librairie. Est-ce qu'il collectionne tous ses romans de séries noires dans sa librairie ? Est-ce que... Je sais pas exactement, mais ça prouve qu'il sait lire, déjà.
Mais quand tu dis il lui paye, c'est en mode... il est chef d'entreprise, c'est bizarre un peu.
Ouais, bah écoute, j'ai pas le détail précis, mais apparemment, il est propriétaire... il devient propriétaire de ces lieux. Donc, ils lui ont acheté, j'imagine, les lieux. Et après, bah lui, oui, il est en gérance, okay. En fait. J'imagine qu'il fait la... qu'il se dit responsable du lieu, mais qu'il sait rien faire, donc à part déambuler comme un caïd. Donc, voilà, il fait sa vie en se disant dirigeant de ces bars-là et responsable de cette librairie. Donc, ce qui contribue à faire qu'il roule des mécaniques... que voilà, il se dit je suis probablement chef d'entreprise, ça va avec le personnage de toute façon. Donc voilà, on rappelle qu'il a 23 ans quand même. Donc waouh. Mais bon. Dans tout ce contexte-là, évidemment, on n'en oublie pas l'amour. Les histoires d'amour, c'est quand même très important. Il s'éprend d'une entraîneuse. Donc entraîneuse, moi j'avais pas entendu ça aujourd'hui, je pense pas que ça se dise toujours.
Une coach.
Ouais, en fait, c'est une employée des bars et des dancing et qui est payée pour engager les clients à danser, à consommer plus. Voilà, ça s'appelle une entraîneuse.
Ok. D'accord.
Bon, j'avais un peu plus ou moins compris ce que ça voulait dire, mais je pense que ça n'a plus ce nom-là aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, je sais pas comment on appelle ça, mais je doute que ce mot soit resté.
Est-ce que ça existe toujours déjà ?
Oui, c'est une bonne question. Tu pourras le couper au montage si tu veux. Voilà, en tout cas, il s'éprend de cette entraîneuse qui s'appelle Muguette Tyrielle. Oui, Muguette, c'est très mignon, n'est-ce pas ? Il s'éprend de Muguette, cette petite fleur qui a 23 ans et donc qui est entraîneuse. Et elle se fait surnommer Dominique ou Domino. Donc on va l'appeler Domino pour le reste de l'histoire parce que c'est quand même plus simple et plus rigolo.
T'as dit, elle s'appelle Muguette et il la surnomme Dominique.
Oui. En fait, elle se fait surnommer, ça doit être son nom d'entraîneuse, elle se fait surnommer Dominique ou Domino.
Ok. Voilà.
Bon, je sais pas, ça doit être le nom qu'elle a pris, le nom d'emprunt, son blaze, son avatar, je ne sais pas, son blaze pour d'entraîneuse, j'imagine. Donc, il s'éprend d'elle, donc on dira Domino pour la suite de l'histoire, et voilà, et donc, c'est un peu... C'est important dans l'histoire, cette petite love story. Tu vas comprendre pourquoi. Okay. J'ai entendu et j'ai lu que malgré le fait qu'il s'éprend de cette personne-là, il est quand même fiancé à une jeune femme qui s'appelle Nadine. Voilà. Bon, ça, c'est en détail. Hein. Ce sera pas forcément très important par la suite parce que même si, bon, Nadine va prendre certaines positions, mais c'est pas une partie de l'histoire qui nous intéresse le plus. Donc ça, ce sera pas forcément très important. En tout cas, suite à ça, dernière chose à noter quand même, c'est que comme Georges Rapin est bien dans son personnage, qu'il développe son identité de voyou, qu'il voilà, on a vu, il s'habille vraiment, il est en costard cravate en permanence. Bon, après, c'est un enfant privilégié, ses parents sont super super friqués, ses parents lui payent tout ce qu'il veut, donc de toute façon, de facto, l'homme est toujours en costard cravate, quoi. Ça va avec son look de voyou, de bandit, un peu corse, un peu, voilà, complètement... dans son personnage. Et donc, pour encore plus faire croire à tout ça, ses parents lui payent même des cours d'art dramatique. Donc, il devient élève en comédie dramatique et Georges Rapin se transforme peu à peu en le personnage qu'il va devenir, donc il va se faire appeler Monsieur Bill par la suite.
J'ai juste une question, genre, ses parents,
ouais.
Ils sont au courant de sa petite vie de voyou ou pas? Genre, ils font ça pour peut-être le récupérer, pour pas qu'il finisse mal?
Non, ses parents, en fait, à ses parents, je pense qu'ils lui disent rien, enfin, il leur dit rien, parce que, en fait, lui, il est dans sa vie, il s'est fait ses trucs, mais ses parents, en fait, tu vas voir que par la suite, ils n'ont pas cessé de croire à son innocence, en fait.
Ok, d'accord.
Ses parents, je pense qu'ils vivent dans leur petite bulle et ouais. Qu'ils comprennent pas, voilà. Enfin, ils sont vraiment okay. Dans leur monde, quoi. Et donc, il fait des cours de théâtre, il roule des mécaniques dans le Paris, dans le Pigalle des années 50. Et donc, au fur et à mesure, ce nom, Monsieur Bill, qui était au début un petit nom, je pense qu'il, voilà, un petit nom d'emprunt, ça va commencer à devenir sa véritable identité. Et donc, c'est là où je vais pouvoir relater les faits qui nous intéressent, et notamment les crimes. Puisqu'en fait, il devient peu à peu le héros de sa propre série noire. Et oui. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que Domino, donc on rappelle, c'est l'entraîneuse, elle lui soutire plusieurs millions de francs pour les remettre à son véritable compagnon. Donc son véritable compagnon, à elle, il s'appelle Stello. Et donc, en gros, là, Monsieur Bill, donc je vais l'appeler comme ça maintenant puisqu'il s'est transformé en Monsieur Bill, pète un câble, donc il part en vrille, il endosse le rôle de sa vie, puisqu'il décide d'agir à l'image des héros de l'époque, donc Kill la Jules, dont on a parlé plus haut. Et en gros, il est pas du tout content de cette chose-là, de ce qu'a fait Domino, et Domino voit qu'il s'énerve, et elle menace de le dénoncer en tant que proxénète.
Oh.
Elle lui dit... Tu vas te calmer, parce que sinon, moi, je dis que tu es devenu proxénète. Je vais le dire aux autorités.
Voilà. Bon,
c'est la cata. Ni une ni deux, il n'en fallait pas plus pour que Monsieur Bill devienne, révèle sa part la plus sombre. Et ce qui se passe dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai 1959, il entraîne Domino dans la forêt de Fontainebleau. Et à ton avis, c'est pour faire quoi? Sûrement pas pour ramasser des champignons.
Pour cueillir la muguette.
Pour cueillir la muguette. Il va donc, de sang-froid, lui asséner plusieurs balles dans le ventre et le dos. Voilà, il l'emmène en forêt. Il lui envoie alors 5 balles en tout dans le corps. Et puis, pour ne pas laisser de traces de son crime abominable, en fait, il l'asperge d'essence et il l'enflamme avec un journal.
Ok, voilà. D'accord.
Facile, easy peasy, tranquillement, quoi. Voilà, donc le cadavre sera découvert par un marchand de chevaux et son garçon d'écurie. La victime est rapidement identifiée, et à ton avis, pourquoi? Ça, c'est quand même assez crazy. C'est parce qu'elle a des escarpins roses au talon aiguille, et en fait, c'est la seule chose qui n'a pas brûlé.
Ah.
Voilà.
Ah bah dis donc.
Il a aspergé d'essence muguette, donc il a fait un feu fleuri avec... Domino, et la seule chose qui reste et qui est retrouvée, c'est les escarpins roses au talon aiguille de cette femme. C'est important ce détail parce que, si tu veux, c'est un peu un attribut féminin de prostituée à l'époque, en fait, ce style de chaussures, en tout cas, à l'époque. Et en fait, comme elles sont retrouvées, il y a eu toute une enquête qui a été faite sur d'où elles venaient, de quelle boutique... donc en fait, quel était le vendeur? Les enquêteurs sont allés voir le vendeur pour dire à qui vous l'avez vendu. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle a pu être identifiée. Et cet épisode atroce marque donc le début de la carrière criminelle de notre ami, pas du tout, de Georges Rapin, donc de Monsieur Bill, et le révèle donc en tant que véritable meurtrier. Du coup, à ce moment-là, bah, ça y est, il a commis son méfait, ça y est, c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un criminel. Donc, ce qu'il ne sait pas, c'est que les bandits du Pigalle des années 50, qui le voient tout le temps traîner, etc., trouvent qu'évidemment, c'est un mec qui est en fait c'est un homme complètement faux dans son allure. Ils sont complètement méprisants à l'égard de Monsieur Bill, et ils le considèrent pas du tout des leurs. Et comme il est jugé trop fake, en fait, on va dire, utiliser cette expression pour être un gangster, eh ben en fait, ils le dénoncent aux autorités sans vergogne. Donc, ils vont aller voir les autorités et ils vont dire « il n'est pas des nôtres, il faudrait peut-être en faire quelque chose ». Voilà. Par la suite, Monsieur Bill est interpellé par le commissaire Chaumeil chez son père et sa mère. Voilà, donc le commissaire débarque dans l'appartement chic du boulevard Saint-Germain. Donc pour les non-parisiens, encore une fois, le boulevard Saint-Germain, c'est quand même un endroit très chic de Paris. Donc c'est un peu un endroit de la capitale où il y a beaucoup de magasins de luxe, voilà. Et donc c'est là que les parents vivaient, que ses parents vivaient. Et donc le commissaire débarque. Dring, dring, bonjour papa, maman de Monsieur Rapin. J'aimerais voir votre fils. Je crois que nous avons un petit souci avec lui. Donc j'aurais donné cher pour voir la tête des parents à ce moment-là. Mmh. Puisque du coup, eux, ils savent rien de... Ouais. Je pense qu'ils tombent un peu des nues.
Je m'étonne.
Et donc, c'est le craquage de Monsieur Bill à ce moment-là qui donc va passer à table. Donc dans le jargon policier, évidemment, je sais que ça ne veut pas dire qu'il va souper. Hein ? Il passe à table.
J'ai eu un doute.
Voilà, je préfère le dire.
Non, parce que dans mes épisodes, on passe souvent à table, donc c'est pour ça.
Ouais, bah là, du coup, il passe à table et il est tellement flatté de pouvoir incarner le rôle qu'il a toujours voulu incarner qu'il avoue. Il va avouer tout de suite au bout de... Non, pardon, pas tout de suite, c'est une erreur. Il va avouer au bout de 24 heures d'interrogatoire, il craque et il avoue. Il dit, oui, c'est moi. Bah, c'est moi qui ai tué Domino dans le bois, dans la forêt de Fontainebleau. Ça rime. Je sais pas s'il a fait des vers à ce moment-là, mais en tout cas, moi, j'en ai fait. Il va avouer non seulement le meurtre de Domino, mais il va aussi avouer le meurtre de Roger Adam. Donc lui, j'en avais pas parlé avant, mais je vais en parler maintenant. C'est un crime qui est survenu un an auparavant et en fait c'est une affaire que la police n'arrivait pas à résoudre depuis un an. Donc il va non seulement avouer le crime de Domino, il va avouer celui de Roger Adam, dont je vais donner les détails juste après, mais il va aussi propager la rumeur d'actes criminels qu'il aurait commis de sang-froid et va s'attribuer comme ça 11 autres crimes.
Ah oui.
Qu'il évoque en plus dans une grande indifférence, une grande fierté quoi. Tu vois, c'est un bandit donc... Il se la raconte un peu, quoi. Voilà. Il est tout content de pouvoir dire ouais, j'ai fait plein de méfaits, je suis un vrai bandit. Alors, bref. Encore une fois, désolée pour les Corses, mais je relate l'histoire. Et donc, on va revenir sur la petite affaire. Non, c'est pas une petite affaire qui concerne Roger Adam. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... D'ailleurs, il faudra que je souligne une chose aussi. À l'époque, je vais le faire tout de suite. Il faut savoir qu'à l'époque, cette affaire, elle a fait l'objet d'une énorme couverture médiatique. Donc, lui, il a été vraiment une star médiatique à cette époque-là, en France. Et en fait, je place quand même ça là, c'est que aujourd'hui, il faut quand même avoir une pensée pour les victimes parce que il a fait l'objet de plein de coupures de journaux, il a été rendu célèbre, etc. Alors que il y a quand même des victimes qui ont vraiment morflé de toute cette histoire, quoi. Et notamment les trois enfants de Roger Adam dont je vais parler tout de suite. Donc en fait à l'époque, Monsieur Bill a une traction. Donc c'est une voiture. Alors je m'étais renseignée un petit peu parce que moi je suis pas très automobile. Il est passé d'une Gordini à une traction. Donc une traction c'est une voiture un peu très avec une très belle carrosserie à l'époque et en fait elle est très prisée par les autorités. Bon voilà, je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas faut le noter. Il a une traction qui est une très belle voiture à l'époque.
Ok.
Et en fait il va voir un pompiste pour aller se faire remplir d'essence sa voiture, et le pompiste n'est autre que Roger Adam. Donc Roger Adam lui verse de l'essence dans sa voiture, sauf qu'en fait oupsie, il fait une petite goutte manifestement sur la carrosserie.
Oula.
De la voiture de Monsieur Bill. Ah mon Dieu, c'est terrible. Monsieur Bill est juste outré et du coup lui fait une petite réflexion du style moi je ne suis pas content, tu as salé ma voiture, tu n'as pas honte.
Mais attends, Monsieur Bill il est en train de le regarder mettre de l'essence dans sa voiture à côté, genre il est à côté en train
de regarder. Manifestement, ou alors il voit dans le rétroviseur une goutte d'essence et oh là, mon Dieu.
Ah
c'est
ouais,
terrible.
Carrément.
Trop bizarre.
Okay.
Bon, voilà, sympa. Toujours est-il que, voilà, Monsieur Bill n'est pas content, donc il lui fait savoir. Et du coup, Roger Adam, il est un peu méprisant aussi vis-à-vis de ce jeune homme, un peu un petit voyou et tout, donc il lui dit, c'est très important, il lui dit, t'es con.
Oula.
Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck?
Voilà, insulte suprême pour notre protagoniste qui est complètement, choqué d'entendre ça, et une fois de plus, il est blessé dans son estime, et se dit, non, on n'a pas à me traiter comme ça, je ne suis pas un petit con, pour qui il se prend. T'as vu, je le fais de mieux en mieux, hein, je m'habitue. Et du coup, Comme il est complètement choqué, c'est Monsieur Bill va réagir comme il sait si bien le faire, donc c'est-à-dire qu'il va la battre d'une balle dans la tête. Voilà, dans la nuit du vendredi saint, c'est-à-dire début avril 1958. Donc soit un an avant le meurtre de Domino.
À son domicile ?
Non, à Villejuif, dans un quartier de Villejuif.
Ah oui, donc il l'a retrouvé et tout, donc il est d'accord.
Bah, je me demande si, alors ça c'est pas précisé dans les coupures que j'ai lues, mais je me demande s'il l'a pas fait, tu vois, si c'est pas arrivé vraiment justement quand il lui versait de l'essence ou vraiment peu de jours après.
Ouais.
Toujours est-il que voilà, il le tue d'une balle dans la tête. Et faut savoir quand même que Roger Adam, bah c'est un meurtre gratuit. Il a trois enfants, il est père de famille. Enfin voilà, c'est atroce. Et à cette époque-là, la police n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé en fait. Plus tard, la police saura que Monsieur Bill a effectivement commis ce meurtre parce qu'il a donné des détails au sujet de cette affaire que personne n'arrivait à donner jusqu'à présent. Donc il va notamment dire « Il a neigé cette nuit-là, il neigeait, et du coup il y avait du sang rouge par terre dans la neige. » Je sais pas, mais c'est en tout cas, c'est avéré, c'est le détail qu'il donne, c'est qu'il a neigé, et les policiers du coup savent que c'est lui. Voilà, bon, c'est
okay.
Bizarre. Bizarre, mais voilà. Il raconte ces faits-là, donc il raconte ces deux meurtres-là, il avoue ces deux meurtres-là, et comme je le disais, il avoue même 11 autres meurtres qu'il aurait commis. Alors que... Non, tu vois, enfin... Il dit aux enquêteurs, ok, j'avoue, j'ai tué Domino, j'ai tué Roger Adam, et en plus, j'ai commis, vu que je suis un gros méchant, 11 autres meurtres, dans ce que je te disais, dans la plus grande indifférence. Quoi.
Ouais.
Mais, en fait... Il va se rendre compte, comme il est un petit peu, je l'ai dit, un petit peu fêlé du bocal, il va se rendre compte que la vie n'est pas un film de gangster et qu'il risque gros. Donc en gros, juste après avoir avoué tout ça, il est complètement terrorisé par le châtiment qu'il risque. Et du coup, il décide de se rétracter. C'est ballot, parce que c'est trop tard en fait. Les deux premiers meurtres de Domino et de Roger lui sont attribués. Donc, pour preuve, les enquêteurs finissent par retrouver l'arme qui a servi à tuer ce pauvre monsieur Adam en 1958. Et les 11 autres sont une douce émanation de son esprit dérangé et se révèlent totalement fictifs. Donc voilà. Et le truc aussi, c'est que monsieur Bill a dit qu'il n'avait jamais... Enfin, quand il a essayé de se rétracter, il a dit « Non, mais c'est pas moi qui ai tué... Non, c'est pas moi qui ai tué monsieur Adam. » Il va prétendre que l'arme, en fait, lui a été dérobée par 4 jeunes personnes, par 4 jeunes gens, et que tranquillement, ils sont venus lui restituer le lendemain. Donc que ce serait pas lui qui ait tué... qui a tué l'homme.
D'accord.
Coïncidence. Je ne crois pas. Suite à tout cela, Georges Rapin, donc notre monsieur Bill, notre protagoniste, le 28 mars 1960, aux Assises de la Seine, est donc complètement enorgueilli par sa renommée de criminel. Il risque la peine capitale, devant des centaines de spectateurs, mais il déclare quand même, enfin, ou il déclame, on ne sait plus trop, hein, à force, il dit « Je considère que l'assassin mérite 100 fois la peine de mort, mais cet assassin, moi, ce n'est pas moi !» Voilà, il dit ça. Ce sont ses mots, dit-il. Il est défendu quand même par... quatre défenseurs qui ont la lourde tâche de plaider son innocence. Le bâtonnier du barreau de Melun, qui est commis d'office depuis le début de l'instruction, et surtout le plus célèbre avocat pénaliste de l'époque, Monsieur René Floriot, qui est payé grassement par ses parents, parce que, comme on le sait, ses parents défendent leur fils bec et ongles. Et surtout, comme je te le disais depuis le début, ils le pensent innocent. Donc ils n'ont jamais cru tous les méfaits qu'il a commis. Voilà. C'est l'amour paternel et maternel. Voilà. L'amour parental. Voilà. Sublime. Et donc, tous ces défenseurs insistent sur le fait que, faute de témoins et de crimes, en fait, tout le dossier repose que sur les déclarations de Rapin, que celui-ci a ensuite renié. Donc, en fait, en gros, ils disent, vu qu'il dit un peu n'importe quoi, il n'est pas coupable.
Bien sûr.
Va conclure, toi non plus, tu n'y crois pas du tout. Floriot, donc l'avocat, le célèbre avocat pénaliste, va conclure sa plaidoirie qui dure quand même 3h30 en disant « Pouvez-vous dire qu'un demi-fou qui s'est accusé de 11 crimes inventés est coupable de 2 autres crimes ?» Est-ce que tu peux le dire ?
Pourquoi pas.
Il ne l'entend pas de cette oreille. En tout cas, donc ça c'est vraiment... C'est une blague de bout en bout. Le 31 mars 1960, le jury prononce la peine capitale Et le 26 juillet 1960, le juge prend la décision de lui couper la chic. Parce qu'il a vraiment dit trop de bêtises, donc à un moment donné, c'est bon, on a compris là.
Lui couper la tête,
ça suffit, tais-toi. Donc en gros, voilà, t'as tout compris. Il décide de le guillotiner.
Ah oui,
voilà.
Oui, c'est vrai que c'était encore... Ouais.
Exactement, c'était encore en vogue à l'époque.
Oui.
Et du coup, en fait, c'est chose faite dans la petite cour de la santé. Donc c'est un endroit...
C'est une blague, petite cour de la santé. Tu viens de faire couper ta tête.
C'est vraiment le lieu, hein. Ça s'appelle comme ça.
Oh, putain.
Et donc, en fait, là, parce que ça n'en finit plus, en fait, ce personnage est tellement incroyable que quand il arrive, en fait, il a mis en scène son suicide légal. Il s'est coupé le col de la veste et de la chemise et il a déambulé, il a paradé en arrivant. En arrivant devant son bourreau, en disant « Merci, monsieur, pour être venu aussi nombreux, je dois être quelqu'un. » Donc ça, c'est ses vrais mots. Hein. Il dit vraiment, il est super honoré d'être reconnu par des centaines de spectateurs qui viennent voir ça. Il est vraiment... voilà, ça y est, il a la renommée qu'il voulait. Et donc, à cette époque, si l'affaire est marquante, c'est parce qu'on parle de suicide à la guillotine, en référence aux aveux stupides de Georges Rapin. Évidemment, c'est une expression qui va rester dans la postérité pour décrire cette affaire, parce que c'est quelqu'un qui, en gros, c'est lui-même, c'est lui-même suicidé sur la guillotine, en gros, puisqu'il a, voilà, c'est l'expression qui consacre cette affaire, en fait. C'est complètement fou. Et donc aujourd'hui, en fait, Monsieur Bill, Georges Rapin, pourra se réjouir d'une seule chose, c'est d'être le seul criminel français à avoir réussi son suicide à la guillotine, ce qui est quand même incroyable. Et c'est quand même la preuve de l'importance de sa folie. Folie qui donc a définitivement marqué l'histoire de la justice française. Et ces meurtres, enfin c'est cette affaire complètement horrible avec ces meurtres complètement odieux qui ont été perpétrés à ce moment-là et qui ont marqué les médias et qui en ont fait une affaire avec une énorme couverture médiatique, comme je le disais, et donc malheureusement célèbre. Voilà.
Eh ben, il les a tués vraiment pour rien, enfin une goutte de la carrosserie et puis
exactement.
Puis une menace. Enfin, vas-y, ok. Bah pour une question d'ego, quoi. C'est tout.
Voilà, c'est quelqu'un qui était, c'était une petite personne qui voulait avoir une certaine renommée, acquérir très certainement une place dans le milieu des voyous et enfin voilà et se faire un nom. Et ben voilà, il s'est fait un nom, mais à quel prix? Voilà, c'était très sympa.
Eh ben, putain.
C'est digne des plus grands Hitchcock, en effet, hein, parce que franchement, c'est quand même un être particulièrement mythomane et particulièrement fou, comme on aime à en écouter, à l'écouter dans tes podcasts. Voilà.
C'est vrai.
Je trouvais que cette histoire était assez intéressante. Ça montre vraiment que parfois, entre fiction et réalité, y a vraiment des gens qui sont suffisamment incroyables pour tout mélanger et puis devenir vraiment des êtres qui vivent dans leur propre monde, quoi, en risquant leur vie. Voilà.
Ouais, clairement.
Mais bon, est-ce qu'on va le plaindre? Est-ce qu'on va plaindre sa disparition? Je ne crois pas.
Non, pas du tout. Pas du tout. Au revoir. Bye bye.
Voilà.
Et ben.
C'était l'histoire un peu cocasse d'un individu un peu spécial qui ne fera jamais le gros titre des affiches de films, mais qui a fait le gros titre des coupures de journaux à cette époque.
J'en ai jamais entendu parler.
Je pense que c'est une affaire qui est pas forcément très relatée, même si elle a fait les gros titres à une époque, mais du coup c'est pour ça que j'en avais jamais entendu parler non plus, et quand je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant d'en parler, parce que je trouvais que l'identité du... Moi qui ai fait du théâtre aussi beaucoup, qui était comédienne un petit peu, je trouve que cette personnalité complètement égocentrique et folle, c'est assez troublant. Et jusqu'où peut aller la folie?
Et ses parents, après, est-ce qu'ils ont, après sa mort, essayé de publier des livres ou des trucs comme ça, ou pas du tout? Parce que de toute façon, ils étaient déjà blindés. Mais tu sais ou pas s'ils ont essayé de médiatiser? Après, je sais pas si à l'époque les gens ils en jouaient autant qu'aujourd'hui, tu sais.
Non, effectivement, j'ai pas, c'est possible, mais je t'avoue que j'ai pas vu ce détail par la suite. Et ce que je sais, c'est que ses parents ont toujours cru en son innocence, même après sa mort, en fait. Hein, ils ont jamais remis en question leur fils. Ils l'ont soutenu mordicus, des années plus tard même.
Eh ben.
C'est sympa. Bonne ambiance.
Ouais, bah merci pour cette histoire que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si les auditeurs la connaissent. C'était très intéressant.
Ben, merci. Merci de m'avoir écouté. C'était pas aussi creepy que certaines affaires de mangeurs d'hommes, mais je trouvais ça pas mal quand même, psychologiquement parlant, de s'intéresser à cette affaire.
Ouais, c'est intéressant de voir d'autres profils des fois, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire toujours le même genre de profil, mais là c'est intéressant d'en entendre un autre pour une fois. Donc merci pour cette histoire. C'était très, très intéressant. Et c'est un personnage, je sais même pas comment le qualifier. Débile. Mais merci Alice de nous avoir raconté cette histoire. Elle était très cool. Bravo à toi.
Merci, merci. Merci Vanny de l'avoir écoutée et merci de la partager. Et j'ai hâte d'entendre la tienne.
Eh bien, la mienne, je vais vous parler d'une histoire qui date. Décidément, en ce moment, je ne sais pas. Je suis comme possédée par le 19e siècle. C'est limite, c'est la photo du tueur et pas en noir et blanc. Ça ne m'intéresse pas, quoi, tu vois.
C'est pas mal. Bah, la photo du protagoniste de mon histoire est en noir et blanc aussi. Donc, tu vois, je pense que...
C'est trop bien.
Nous sommes raccord, c'est parfait.
Je vais vous raconter l'histoire d'Adolf Louis Lutgert.
Ouh, à tes souhaits.
Petite musique creepy, c'est parti, let's go. Adolf naît le 27 décembre 1845 en Allemagne. C'est le troisième d'une lignée de 10 enfants. J'ai lu parfois que c'était 11 enfants, donc je ne sais pas lequel est lequel. 8 fils, 2 filles, et il a d'ailleurs un frère jumeau. Détail insignifiant, mais détail quand même. Il est issu d'une famille modeste, son père est tanneur, il travaille dans les peaux de bêtes, leur laine, etc. Et justement, après avoir été à l'école de 7 à 14 ans, Adolphe va suivre le même parcours que lui pour devenir tanneur et il va être l'apprenti d'un monsieur nommé Ferdinand Knabel qui va lui apprendre le métier. Adolphe quitte alors le domicile familial à 14 ans, il va être hébergé par Ferdinand le temps de son apprentissage pendant 2 ans et demi. Quand il a terminé sa formation, il se met à voyager à gauche à droite en Allemagne et à faire des petits boulots par-ci par-là. Ensuite, quand il a 19 ans, il décide de partir tenter sa chance en Angleterre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Il va s'y installer 6 mois à Londres, mais il s'avère que là-bas, bah, pas de chance non plus, il galère tout autant à trouver du travail. Il sera embauché la plupart du temps dans des restaurants pour faire la plonge et le ménage. Donc c'est pas ouf. Au bout d'un moment, il dit stop, il en a ras le cul et il se met en tête de partir pour les États-Unis cette fois-ci. La Terre Promise.
Oh yeah.
Il en entend que du bien, il se dit que c'est le moment ou jamais, il n'a rien à perdre, littéralement il a 30 balles en poche, il achète son billet de bateau pour New York et c'est parti mon kiki. Il arrive alors à New York quand il a tout juste 20 ans, il va y passer quelques mois puis ensuite il va rejoindre des amis de son frère qui habite à 4 heures de route à Quincy dans le Massachusetts. Il va rester avec eux pendant 4 mois, puis, sans doute attiré par les bad vibes, il va déménager à Chicago, la ville où tous les serial killers décident de s'installer. À cette époque, pour rappel, c'est la ville de H.H. Holmes, de Belle Gunness, de John Wayne Gacy un peu plus tard, et j'en passe. Donc voilà, il se barre à Chicago, qui est quand même à 15 heures de route, et il s'y installe avec pour mission de se trouver un taf en lien avec ses études, le tannage. Qui, pour rappel, n'a rien à voir avec les techniques d'auto-bronzage. Et c'est bingo, il est engagé dans une tannerie là-bas, mais le problème, c'est qu'il ne le paye pas assez régulièrement, ce qui l'oblige à compléter ses revenus en faisant encore des petits boulots sur le côté, et ça l'arrange pas trop. Il va changer de tannerie à deux reprises, jusqu'en 1872, où il va décider de lancer sa propre entreprise, et contre toute attente, c'est dans un tout autre domaine, l'alcool. Au fil des années, il a réussi à mettre de côté, et du coup, avec ses 4 000 $ d'économie, il ouvre un petit saloon, un petit bar sur Webster Avenue, et ça marche assez bien. C'est dans ces eaux-là qu'il rencontre sa première femme, Caroline Robke. Ils se marient, et ils ont ensemble 2 enfants, mais malheureusement, Caroline, quelques années plus tard, environ 5 ans plus tard, elle meurt.
Non !
Mais ne vous inquiétez pas, car seulement 2 mois plus tard, délai qu'on souhaite à tous nos maris, bien sûr.
Pas du tout.
Adolphe va retrouver l'amour en Louisa Bickness, qui était, je cite, une jolie jeune femme d'origine allemande. On dit qu'il était fou amoureux, in love de Louisa. Pour vous mettre dans le contexte, Louisa, elle avait 23 ans au moment de leur rencontre, et Adolphe en avait 93. Non, je rigole, il en avait 32. On dit que Adolphe était un homme très imposant physiquement, contrairement à Louisa qui était toute petite à côté. Comme je vous l'ai dit, Adolphe a eu le coup de foudre. Pardon, j'avais écrit le coup de fouf, j'ai un peu bugué. Petite faute de frappe, on va se calmer quand même. Et pour ce deuxième mariage, il y va à fond. Il lui fait graver son alliance avec ses nouvelles initiales, LL, Louisa Lutgert. Il claque un peu quand même, c'est l'amour de sa vie, enfin le nouveau. Donc voilà, tout se passait plus ou moins bien au début dans leur couple, comme d'habitude. Et avec elle, il aura 4 enfants supplémentaires. Malheureusement, il n'y en aura que 3 qui survivront au-delà de l'âge de 2 ans. Adolphe et sa femme vivent au-dessus de leur saloon, les affaires sont bonnes et ils sont très économes, ils mettent de côté le maximum et ils ont hâte que leur business décolle un jour parce qu'ils veulent devenir riches, genre très riches. Et c'est là qu'Adolphe va s'intéresser au marché de la saucisse. Il tente d'en confectionner pour les vendre les étés parce que à Chicago, le business des saucisses, je ne sais pas pourquoi, c'est que l'été, donc je pense que c'est un délire de barbecue. Il arrive à faire beaucoup de profits, donc il va décider de reconvertir son entreprise, son saloon, en entreprise à saucisses. Voilà, pourquoi pas. Après tout, c'est presque pareil. Et en 1879, il ouvre sa petite usine à saucisses. Voilà, trop mignon. Enfin, petite. Ils avaient 80 000 $ de budget. Dollars de l'époque, bien sûr, donc une grosse somme. Adolphe voulait construire une usine révolutionnaire de 6 étages avec des voies de chemin de fer qui passaient à travers au rez-de-chaussée carrément. Louisa, elle n'était pas trop d'accord. Elle voulait faire construire une usine un peu plus petite et garder une partie de l'argent pour l'investir ailleurs. Au final, c'est lui qui a eu le dernier mot et il a fait construire son usine gigantesque. Ça ressemble aujourd'hui car l'usine est toujours debout, mais elle sert maintenant d'appartement. Donc voilà, vous pouvez aller regarder ça si ça vous intéresse. Et là, incroyable, son saucisse business décolle, il explose le marché littéralement. En fait, Adolphe, il a réussi à trouver un moyen de faire de la saucisse 365 jours par an. Ce que apparemment tous les gens dans la saucisse à l'époque n'arrivaient pas à faire. Lui, c'est un boss, c'est un Allemand surtout, donc il a la technique secrète qui leur est tous livrée à la naissance bien sûr. L'argent coule enfin à flot et monsieur fait construire pour Madame Louisa une maison immense à 3 étages accolée à son usine à saucisses, donc romantique, dans laquelle il habitera avec Louisa forcément et leurs 2 fils Elmer et Louis. Bon, par contre, me demandez pas où sont passés les autres gosses, je sais pas, mystère et boule de gomme, apparemment il y en a un qui est plus vieux et les autres, je sais pas, soit ils sont morts, soit voilà, aucune idée. Adolphe fait beaucoup parler de lui dans les environs, c'est un génie. Il est prononcé roi de la saucisse, C'est pas une blague, hein. En 1893.
C'est un titre honorifique.
C'est un titre honorifique, tout à fait. Je vous mettrai les images promotionnelles de son entreprise à saucisses sur mon site. On peut voir ses pubs de l'époque et tout, c'était stylé, on va pas se mentir. Donc grâce à ça, grâce à ce titre du roi de la saucisse, il va décrocher un gros contrat pour être le fournisseur officiel de saucisses de Francfort pour l'exposition universelle de Chicago. Putain, j'ai jamais autant dit saucisse de ma vie. C'est la même exposition universelle que H.H. Holmes. Donc voilà, c'était à la même époque, même ville. C'est dingue, quelle coïncidence. L'exposition universelle va bien sûr faire exploser son chiffre d'affaires. Le roi de la saucisse, il saucisse à fond. On estimait sa richesse à près de 10 millions d'euros d'aujourd'hui. Donc voilà, il vivait bien, sa petite famille aussi, jusqu'au jour où l'exposition universelle prend fin et malheureusement son ascension dans la saucisse avec. Le pays va vivre une mauvaise passe économique qui va directement impacter l'entreprise d'Adolphe et qui l'entraînera petit à petit dans la faillite. Tout ce temps, sa femme Louisa n'est au courant de rien du tout. Contrairement à son mari, elle est restée super économe, bien qu'ils aient engagé 3 domestiques à la maison. Et ses domestiques diront même à ce propos que c'était très étrange qu'elle vive au-dessous de ses moyens, qu'elle n'avait pas l'air aussi heureuse qu'on pouvait le penser. Adolphe repousse le moment, mais il va devoir l'annoncer à Louisa qu'il n'est plus le roi de la saucisse. Et c'est à partir de là que le couple va partir... Oula, je crois que j'étais high hier quand j'ai écrit ça, parce que j'ai écrit « Le couple va partir en chipolata ». Mais c'est pas drôle du tout.
En live, va partir en live.
Ah, va partir en live. C'était déjà pas la joie, mais là, ça dégénère à la maison. Ils enchaînent dispute sur dispute à propos d'argent. Louisa était bien évidemment pas d'accord sur la manière dont ils dépensaient toutes leurs économies et tous leurs revenus dans le bis à saucisses. Elle voyait les choses autrement et lui ne voulait rien entendre. Pour elle, c'est lui qui a fait périr l'entreprise à cause de sa mauvaise gestion des finances. Et si seulement il l'avait écouté, ils en seraient pas là. Et pour ses propos qui forcément ne plaisaient pas à Adolphe, Louisa se faisait battre de plus en plus souvent et les domestiques en étaient témoins à plusieurs reprises, ainsi que leurs enfants. Ce sont elles d'ailleurs qui commencent à faire circuler les rumeurs dans le quartier, tout le monde va finir par être au courant, puis, soudain, plus un bruit. À partir du 1er mai 1897, plus personne ne croise Madame Louisa, pas même ses fils, qui vivent avec elle. Ils demandent alors à leur père, Adolphe, où elle se trouve, et celui-ci leur répond qu'elle est partie la veille dans la soirée pour rendre visite à sa sœur. Ses fils disent ok, mais au bout de 3 jours, toujours aucune nouvelle d'elle, et le frère de Louisa, Dietrich, va venir lui rendre visite le 4 mai, mais Louisa n'est pas à la maison. Il interroge Adolphe à son sujet, mais Adolphe lui dit sans pression que ça fait 3 jours qu'il n'a pas de nouvelles non plus, mais que elle a dit qu'elle était partie voir leur sœur. Il s'en balèque. Dietrich trouve l'attitude d'Adolphe très bizarre. Il est étrangement très calme, vu la situation. Adolphe glisse aussi à Dietrich que entre Louisa et lui, ça ne va plus du tout et que Louisa l'a menacé à plusieurs reprises de le quitter, qu'il la suspecte d'avoir une relation extra-conjugale avec un homme non identifié et qu'il pense que la visite chez sa sœur, c'est un prétexte, mais qu'elle s'est bel et bien barrée, qu'elle l'a quitté et c'est pourquoi il ne s'inquiète pas plus que ça pour elle. Son mari dit même qu'elle a dû repartir en Allemagne avec ce nouveau mec carrément. Enfin voilà, il s'en fout. Dietrich face à ses révélations est perplexe et au fond, il en croit pas un mot. Il sait que sa sœur n'aurait pas pu partir comme ça du jour au lendemain sans le prévenir et en laissant ses deux fils derrière elle. Et comme je vous l'ai dit, il trouve Adolphe très très louche. Donc 3 jours plus tard, alors qu'il est toujours sans nouvelles de sa sœur, Dietrich va aller prévenir la police lui-même et signale la disparition de Louisa. Tout de suite, la police prend l'affaire au sérieux et fait diffuser des portraits de Louisa dans la presse. Ils vont effectuer des fouilles dans les environs, sonder tout le fond d'une rivière proche de leur domicile, mais rien, elle est introuvable. Ils pensent malgré tout, comme Dietrich, que Adolphe est en effet suspect, mais sans preuve pour avancer quoi que ce soit ou pour le faire arrêter, ils continuent de chercher. La police interroge toutes les connaissances de Louisa ainsi que tous leurs voisins, et justement ceux-ci, qui ont entendu leur dispute agitée depuis plusieurs semaines, vont les signaler à la police et vont aussi leur faire part des rumeurs qu'ils ont entendues en ville, selon lesquelles Adolphe aurait commencé à fréquenter une femme assez riche, une certaine Christine Fields, depuis qu'il a fait faillite, et qu'il avait en tête de se marier avec elle aussitôt que Louisa ne serait plus là. Et comme par hasard, elle a disparu du jour au lendemain. Ils interrogent aussi la dernière personne à avoir vu Louisa à son domicile, la domestique Mary Semmering, qu'ils ont engagée récemment. Elle dit qu'elle a vu Madame Louisa quitter la maison vers 22h. Tout le monde qui connaissait Louisa est d'accord pour dire qu'il était très peu probable que Louisa ait un amant, c'était pas trop son style, et encore moins qu'elle soit partie avec en laissant toute sa vie derrière elle, ses fils, etc. Même si, au final, tout le monde se rend compte que c'était une femme battue et qu'elle était malheureuse, elle n'aurait jamais laissé ses enfants derrière elle. De son côté, lui, Adolphe, avait carrément fait installer une chambre dans son bureau à l'usine pour ne plus avoir à rentrer à la maison et à se disputer avec la femme le soir. Louisa et ses fils le voyaient de moins en moins, ils venaient juste au moment des repas et c'est tout. Bien sûr, il profite aussi de cette chambre à part dans son bureau pour fricoter avec des femmes. D'ailleurs, Louisa commençait à entendre les fameuses rumeurs selon lesquelles il en fréquentait plusieurs, de préférence des veuves bien friquées, dans le but d'obtenir de l'argent pour son entreprise à saucisses, car il était perpétuellement en train d'emprunter à droite et à gauche pour éponger ses dettes et maintenir son business à flot. Preuve à l'appui, un jour, des employés le prennent la main dans le sac, plus ou moins, en train de galocher nul autre que sa domestique Mary.
Chérie, c'est pas ce que tu crois, je peux tout t'expliquer.
Vas-y, je t'écoute.
En fait, j'avais juste envie de la ken.
L'enquête prend un tournant creepy quand un autre employé de l'usine à saucisses, Wilhelm Fulpeck, confie à la police que ce 1er mai 1897, jour de la disparition de Louisa, il l'a aperçue en train de rentrer dans l'usine vers 22h30. Le gardien de nuit dira la même chose, il a vu le couple ensemble ce soir-là, il explique que cette même soirée, son patron lui a demandé de faire une course pour lui, et qu'ensuite il lui a dit de rentrer chez lui pour la nuit. Pourquoi faire, monsieur Lutgert ? Et attention, grosse coïncidence de fou malade, on retrouve dans les comptes de l'entreprise une facture d'une commande qui a été passée la veille de la disparition de Louisa pour qu'il se fasse livrer 171 kg de potasse caustique et 22 kg d'arsenic. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, en même temps, ils en utilisent souvent dans les usines à saucisses, c'est sur leur liste de commandes habituelles, mais à ce moment-là, ça faisait 10 semaines que l'entreprise était fermée. 10 semaines, mais comme par hasard, pouf, une petite commande d'arsenic, comme ça, juste avant que sa femme disparaisse. Aucun des employés n'arrive à justifier cette commande, et un chimiste affirmera que les produits chimiques commandés la veille, la potasse et l'arsenic, n'avaient aucune utilité dans une usine à saucisses. Mais alors, où est Madame Louisa ? Tout le monde l'a vu rentrer dans l'usine, mais personne ne l'a vu ressortir. À ce stade, les enquêteurs sont convaincus que le roi de la saucisse nous cache quelque chose.
Je crains le pire.
La police est persuadée qu'il a tué sa femme et l'a dissous dans un baril d'acide, au sein même de son usine. La police organise une perquise de l'usine le 15 mai. Le concierge leur recommande de commencer par les sous-sols, où sont entreposées toutes les grandes cuves de 4 mètres sur 2 mètres qui servent à cuire les saucisses. Les enquêteurs vont s'intéresser à une cuve en particulier près des fours qui servaient à fumer la viande. Elle est à moitié vide et elle est remplie d'un liquide graisseux rougeâtre qui pue la mort. Ils vont le vider et à l'aide de bâtons vont fouiller parmi les résidus qui se trouvaient dans le liquide. Rapidement, ils tombent sur un morceau de crâne et tenez-vous bien, deux bagues, dont une où sont gravées les lettres LL. C'est la bague de Lola Lucette, bien sûr.
Évidemment.
Ils inspectent ensuite le four juste à côté et retrouvent parmi les cendres des ossements humains que le médecin légiste reconnaîtra comme étant ceux d'un orteil, de côte et d'un crâne humain, et plus particulièrement ceux d'une jeune femme. Ils trouvent aussi des parties métalliques qui sembleraient appartenir à un corset. Adolphe est bien évidemment et immédiatement le premier suspect dans le meurtre de sa femme. Il est arrêté 3 jours plus tard, bien qu'il se dise totalement innocent de ce qu'on l'accuse. Il n'y est pour rien. 10% de matière grise, le mec. Bien entendu, les locaux sont choqués par cette histoire. Et les rumeurs vont bon train, notamment celles qui racontent qu'il n'aurait ni fait dissoudre ni brûler le corps de sa femme, mais qu'il en aurait fait, suspense, des saucisses.
La chute qu'on attendait tous.
Je crois que tout le monde, au titre de cet épisode, se sera douté de ça. Une fois cette rumeur lancée, les ventes de saucisses dans la région ont été catastrophiques. Personne n'a voulu prendre le risque. Le procès se tient en août 1897 et c'est l'euphorie générale. Toute la populace se rue pour espérer rentrer dans la salle d'audience et y assister. On note d'ailleurs une majorité de femmes super curieuses qui venaient voir à quoi Monsieur Ludgert ressemblait. Le procès commence, c'est un peu la pagaille concrètement, ils disent qu'aucun corps n'a vraiment été retrouvé. Après là je comprends pas, faut m'expliquer ce que foutaient des morceaux de crâne humain et d'orteils dans les fumoirs à saucisses. La défense, elle, affirme que Louisa n'est pas morte, qu'elle est simplement partie d'elle-même, comme elle l'avait annoncé à son mari pendant les disputes. L'avocat de Ludgert en est personnellement persuadé, à tel point qu'il va engager de son propre argent 2 000 $ dans ses recherches de témoins. Parce que oui, il y a de nombreuses personnes qui disent avoir aperçu Louisa après la date de sa présumée disparition. D'ailleurs, je vous mets le lien dans mes sources d'un site où il y a la liste de toutes les villes où Louisa aurait été aperçue. Alors, il y a plein de villes, mais ça reste quand même concentré dans la partie nord-est du pays, autour de Chicago. Et si vous cliquez sur chaque ville, vous avez le petit article de journal de l'époque avec le témoignage de la personne qui dit avoir vu Louisa. En vrai de vrai, j'ai lu que parmi ces témoignages, la plupart étaient en fait bidons. C'était des mensonges, des canulars. Et le reste, c'était des témoignages de gens qui s'étaient un peu emportés. Ils avaient en vérité seulement aperçu des femmes alcooliques en train de vagabonder seules dehors. Et tout de suite, ils ont fait le lien avec l'affaire. Mais c'était pas du tout Louisa. Voilà. Donc la plupart, c'est du fake. Lors de ce premier procès, du coup, la majorité des personnes qui constituent le jury pensent qu'il a effectivement tué sa femme, dont la police, au vu des preuves irréfutables qu'ils ont trouvées, de la bague gravée LL retrouvée dans le baril. Mais il y en a quand même un, et l'avocat du coup, ça fait deux, qui pense qu'il est totalement innocent et qu'elle a juste disparu et qu'elle reviendra sûrement bientôt pour sauver son mari de la tourmente. Mais ce ne sera pas le cas, bien sûr. Sont appelés à la barre plusieurs employés qui travaillaient à l'usine la nuit fatidique. 3 d'entre eux disent avoir bien vu Madame Louisa rentrer dans l'usine en compagnie de son mari vers 22h30. Elle était vêtue comme si on l'avait tirée de chez elle alors qu'elle était en train de chill le soir près de sa cheminée. Elle avait pris un truc léger pour se couvrir et elle était en chaussons. Alors que cette nuit-là, il faisait froid et il pleuvait. Je rappelle innocemment que leur maison se situe littéralement à côté de l'usine. Genre, elle est accolée à l'usine, quoi. Donc, voilà. Il a sûrement dû lui dire, viens voir 2 secondes. Et voilà, elle est juste sortie pas habillée. C'est pas un kidnapping. Elle a pas fait 30 km en pyjama pour arriver à l'usine, quoi. Et c'est le témoignage du gardien, dont on a rapidement parlé tout à l'heure, qui sera le plus lourd dans cette affaire. Il va donner plus de détails sur le déroulement de la soirée. Il explique que M. Ludgert lui a demandé de descendre 2 barils de potasse au sous-sol, à la chaufferie. Il a dit qu'il l'a vu verser ces 2 barils de potasse dans une des cuves pour la porter à ébullition. et 10 minutes après l'arrivée de Madame Louisa à l'usine, Adolphe aurait demandé au gardien de quitter son poste. Il lui a demandé d'aller lui chercher des cachets dans leur pharmacie, des calmants, ce qu'il a fait. Et quand il est revenu au sous-sol pour les lui donner, le gardien a trouvé la porte fermée à clé. Le gardien ne s'arrête pas là dans ses révélations, il dit que suite à la première fouille que la police a effectuée sur les lieux, M. Ludgert est venu lui demander s'ils avaient trouvé quelque chose, ce à quoi le gardien lui a répondu que non. Ils n'ont rien trouvé de suspect et Ludgert aurait dit « c'est bon alors ». Et Adolphe, il lui aurait promis un meilleur poste, mieux payé, quand l'usine à saucisses rouvrirait, en échange de son silence. Pour ne pas arranger son cas, Adolphe aurait été rendre visite à Agatha Toche, quel nom, j'adore, la femme du gérant de la taverne qui se situe en face de l'usine. Il serait venu lui dire de ne pas dire à la police qu'elle avait vu de la fumée sortir des fours de l'usine la veille. Il lui dit que ça va pas bien se passer pour lui si elle leur dit ça. Agatha refuse de garder le silence et elle témoignera pour la police. Elle dira qu'elle a bien vu de la fumée s'échapper de l'usine alors qu'elle était censée ne plus être en fonctionnement à ce moment-là. Et elle rajoutera même qu'un homme a tenté de la faire taire juste avant le procès en venant l'intimider. D'autres personnes diront avoir été témoins d'événements assez étranges, comme un homme qui aurait entendu un cri vers 22h le soir de la disparition de Louisa quand il passait près de l'usine. Bon, après, on dirait que c'est le seul qui l'a entendu. Lors du procès, Adolphe n'est pas très vocal. On note même exactement le nombre de fois où il répète les mêmes phrases. Par exemple, quand il est questionné, on note qu'il va dire « Je me souviens plus. » 116 fois.
« Je sais pas. »
54 fois.
« C'est possible. »
47 fois.
« Je m'en rappelle plus. »
18 fois. Donc voilà, il n'est pas très impliqué, comme vous pouvez le voir. La riche veuve, sa dernière maîtresse, est elle aussi venue témoigner pour dire qu'en effet Adolphe lui parlait souvent de sa femme Louisa en négatif, qu'il avait laissé entendre qu'il souhaitait se débarrasser d'elle. Par contre, leur domestique, Mary, avec qui il avait été pris en flag là, elle dira que bah non, il a toujours bien traité sa femme, qu'elle n'était pas battue. Elle avait au début avoué avoir eu une relation avec lui, mais Mary se rétracte et elle dit que non, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Et je pense que sur ce coup-là, elle s'est fait aussi intimider et menacer comme la femme de la taverne. Ils ont sûrement dû lui dire de dire du bien de lui et puis au passage de dire qu'ils n'étaient pas si proches que ça. Comme ça, ça clean un petit peu le personnage. Par contre, c'est cramé bien sûr, donc au final, ça sert à rien. Parlons-en d'ailleurs de la défense. Ils continuent de s'obstiner sur le fait que Louisa est bien vivante quelque part, que ce n'est pas les morceaux de son corps ni ses os qui ont été retrouvés. Ils vont eux aussi faire le test de plonger des cadavres dans des barils de potasse et montrer qu'ils n'ont pas eu les mêmes résultats qui prouvent ça se dissout. Pour eux, non, ça se dissout pas de leur côté. Voilà, ils disent par A plus B que ce sont pas les restes de Louisa dans les barils. Un associé d'Adolphe dira que la potasse caustique commandée la veille avait été commandée spécialement dans le but de fabriquer du savon pour nettoyer l'usine de fond en comble avant de la revendre. Cette remarque n'a pas été prise au sérieux, bien évidemment, car le shérif Moan dit que quand il a lui-même fait le tour de l'usine lors de la fouille, il a aperçu dans leur stock plus de 100 boîtes de savon et que c'était largement assez pour nettoyer tout le bâtiment, s'ils avaient vraiment l'intention de le faire. Donc voilà, ça sert à rien de nous mytho, monsieur. La défense fait une dernière tentative pour innocenter Adolphe. Il montre au jury une lettre soi-disant signée Louisa Ludgert. Et dans cette lettre, elle expliquerait qu'elle était partie vivre avec des amis à Chicago, qu'elle allait très bien. Ils vont mener une petite comparaison d'écriture et se rendre compte que nenni, ce n'est pas l'écriture de Louisa Ludgert. Voilà, la défense, rasseyez-vous s'il vous plaît.
Sit down, shut the fuck up and drink your damn juice box.
Le 18 octobre, on laisse le jury débattre, mais après 66 heures de délibération, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un verdict. Ils se décident à relancer un deuxième procès. Le 29 novembre 1897, Adolphe a besoin de son avocat pour le deuxième procès, mais il n'a plus de fric à ce stade, donc il va faire un appel aux dons à quiconque voudrait lui venir en aide pour se payer un avocat. Quasiment personne ne lui répond et il est forcé, le 19 janvier 98, à se défendre lui-même. Il prend la parole devant tout le monde et d'ailleurs ce jour-là, c'est la pagaille. Tout le monde est excité, la police galère à faire maintenir le calme dans la salle. Après des heures et des heures à clamer son innocence, sans que personne n'y croie, Adolphe est enfin reconnu coupable du meurtre de sa femme Louisa le 9 février 98. Il l'embarque, il l'enferme à la prison de Joliette. C'est là que Ludgert sombre peu à peu dans la folie. Il dit à tout le monde que sa femme est revenue pour le hanter, il la voit, elle lui parle.
Hey, bonjour.
Elle lui dit qu'elle prépare sa vengeance et soi-disant, il comprend pas du tout pourquoi. Parce que bien sûr, il maintient en prison qu'il n'a rien fait. Très tôt le matin du 27 juillet 1899, Adolphe, qui s'apprête à prendre son petit déjeuner, est pris d'une crise cardiaque. Il meurt. Peu de temps après sa mort, un homme révèle qu'il avait rencontré Adolphe en prison en 1898 et qu'il avait lu avec son accord dans les lignes de sa main. C'est lors de cette rencontre que le roi de la saucisse lui aurait confessé avoir tué sa femme à un moment où il était possédé par le diable. Alors on la connaît celle-là, hein, à force, le coup du diable. Et il semblerait qu'il ait aussi fait ces mêmes aveux à un autre prisonnier. Après bon, on le savait hein, qu'il était coupable. Donc voilà, il est mort en prison. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. On dit que le fantôme de Louisa aurait commencé à faire son apparition au domicile des Ludgert, peu après qu'Adolphe soit incarcéré. Les voisins disent avoir aperçu à plusieurs reprises une femme vêtue d'une robe blanche qui s'appuyait contre la cheminée du salon. La maison a fini par être louée, mais aucun des locataires n'a réussi à y rester très longtemps. On rapporte aussi que Louisa a fait quelques apparitions dans l'usine à saucisses par la suite et qu'elle déambulerait dans les rues de son quartier, toujours aujourd'hui et surtout vers la date de sa mort, le 1er mai. Et je vais vous lire un article qui décrit une de ses apparitions et qui a été publié le 4 avril 1901 dans le journal. Ouvrez les guillemets. Près de 4 années se sont écoulées depuis la mort de Madame Louisa Ludgert. Et maintenant, son fantôme apparaît dans le bâtiment de l'usine, sur l'avenue où elle a été tuée. Plusieurs personnes qui vivent dans la rue peuvent témoigner de ce fait. John Seifert, le gardien de l'usine, August Beck, le tenancier du bar juste en face de l'immeuble, et Gustav Haas, qui vit dans la maison anciennement occupée par Adolphe Ludgert, sont trois des nombreuses personnes qui ont vu l'apparition. Seifert a signalé l'incident à la police le mercredi, le fantôme étant apparu pour la première fois mardi. Mercredi soir, le capitaine Hermann Schüttler de la brigade de l'avenue Sheffield a envoyé les détectives John Quinn et William Blohl à l'usine. Putain, ça en fait du monde. Une lumière est bientôt apparue à l'une des fenêtres de l'usine et les officiers ont décidé d'enquêter. Avec leurs revolvers tirés de leurs étuis et portant chacun une lanterne, ils sont entrés dans l'usine en compagnie de Seifert. Immédiatement, une lumière s'est précipitée devant eux, comme si elle était une traînée de foudre. Puis, prenant l'escalier, elle est descendue du premier étage au sous-sol. Les agents l'ont suivie, et quand ils sont arrivés au sous-sol, ils ont vu à nouveau la lumière. Elle était à l'endroit même où se trouvait la fameuse cuve dans laquelle le corps de Madame Ludgert avait été désintégré. Quinn s'était précipité sur elle, mais elle a disparu. Et avant qu'il ne réalise, elle était dans un coin, à 15 mètres de distance. L'officier s'est à nouveau approché et cette fois, il a été en mesure d'arriver à quelques centimètres de l'apparition, qui était en tout typiquement celle d'une femme. L'officier a bondi sur elle, mais ses bras se sont heurtés à un petit baril et sa tête a traversé une vitre. La lumière a disparu, mais une foule d'hommes et de femmes qui étaient à l'extérieur du bâtiment à regarder ont dit qu'à peine avaient-ils entendu le fracas d'une vitre qu'ils avaient vu la lumière apparaître vers le haut de l'usine. Les policiers sont retournés au poste et ils croient fermement au fantôme. Fermez les guillemets. Et fun fact, on peut lire que l'usine avait brûlé en 1902, mais comme je vous ai dit, le bâtiment existe toujours aujourd'hui. Par contre, c'est vrai, il y a bien eu un incendie en 1904, mais rien n'a été endommagé car les seules choses qui ont pris feu, c'était les cuves au sous-sol. Comme par hasard. Voilà, c'était l'histoire du roi de la saucisse et du meurtre de sa femme Louisa. Perso, je suis persuadée qu'il l'a tuée. On est d'accord, hein, Alice ?
Absolument, je suis... Exactement, je partage ton avis. C'est pour le moins abject. J'ai plus du tout envie de barbecue, tout à coup.
Mais tu sais qu'ils font des saucisses véganes maintenant. N'hésitez pas à me sponsoriser si vous avez des saucisses végétales. Et n'oubliez pas de faire un tour aussi sur mon site pour aller voir toutes les photos de l'affaire. C'est super intéressant, je vous en mets une tonne. Comme d'habitude, vous verrez tout. Les plans de l'usine, la photo du couple, vraiment tout. Puis les petites publicités de son entreprise, donc voilà. Alors dis-moi Alice, qu'en as-tu pensé de cette histoire ?
Cette histoire complètement creepy, on imagine très bien ce qui peut se faire dans une usine à saucisses hein, par un criminel, hein, évidemment, hein, on le devinait, mais écoute, non, je suis censée aller me faire à manger là, mais je t'avoue que je commence à me demander si je vais aller me faire cuire le steak que j'avais prévu de manger. Mais sinon, non, merci beaucoup pour cette histoire. Je ne la connaissais pas non plus.
Parfait. C'est vrai qu'elle n'est pas très... On n'en parle pas souvent. Mais je l'avais entendue comme ça furtivement une fois. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant.
C'est une histoire un peu complète, quoi.
Ouais. Et c'est vrai que la partie fantôme, à la fin, moi, je m'attendais à... Parce que j'avais vu vite fait, oh, il y a une histoire de vengeance avec un fantôme et tout. Et je m'attendais à ce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai que d'un côté, est-ce qu'on peut se demander si ce n'est pas elle qui l'a hanté à la prison et qui au final lui a provoqué une crise cardiaque tellement il angoissait et tout. Parce qu'il est mort vraiment un an à peine après s'être fait incarcérer. Et après, il y a toutes ces histoires de les gens qui la voient, etc. Et puis, comme par hasard, le feu qui prend là dans l'usine à saucisses. Et comme par hasard, c'est que dans les cuves.
Oui.
Enfin, c'est bizarre quand même. Pourquoi ça cramerait au niveau des cuves ? Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit truc paranormal.
Ah bah, il y a une mauvaise vibe à cet endroit.
Bah c'est ça.
Une
c'est
mauvaise
ça,
vibe à cet endroit.
Clairement, clairement. Ah là là. Et ben sur ce, ça me donne envie d'aller faire un tour à Chicago quand même. Hein. Parce que ça a l'air une ville... Chargé criminellement, énergétiquement, bad vibes en. Enfin voilà. C'était un plaisir de faire cet épisode avec toi. Ton histoire était grave cool. N'hésite pas à revenir si tu nous en trouves une autre dans le genre un jour et que tu as envie de nous la raconter.
Merci beaucoup, Vanille, de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un grand honneur d'avoir pu partager un peu de vibes creepy sur ces histoires. Assez historique finalement, puisqu'elles se passent toutes les deux quand même dans un temps plutôt ancien.
Ouais. Sur ces histoires en noir et blanc.
Voilà, ces histoires en noir et blanc, exactement.
J'espère que cet épisode vous aura plu, que les histoires vous auront transporté. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict, je ne sais pas laquelle vous avez, de laisser une petite note, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer le schmilblick, comme on dit, quand c'est pas accompagné d'un commentaire de rageux, bien sûr. Et soyez au rendez-vous sur Patreon pour le prochain épisode, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je vous mets le lien en description. Pour rappel, Patreon, c'est une plateforme qui permet de soutenir le podcast pour que je puisse continuer à produire des épisodes. Et vous avez accès à des épisodes exclusifs, d'autres histoires bien creepy qui vous attendent bien au chaud là-bas. Et sur ce, t'es prête Alice ?
Oui, je suis on ne peut plus prête.
Je vous dis à bientôt sur Patreon pour une nouvelle histoire. Bien
creepy.
Thank you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Ok.
C'est pour faire peur.
Ah, mais... je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce que ça peut. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple. Tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
creepy.